to play off. Newton steps up, throws for the end zone. Olsen, touchdown! Smith scores, and the Carolina Panthers win in overtime.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce 37e numéro du Poundcast de Panthers FR avec Guillaume au micro, comme vous en avez l'habitude. Et au menu de cette émission, on va débriefer le premier match de la saison 2022, une défaite des Panthers face aux Browns de Cleveland, une émission que je vais avoir le plaisir d'enregistrer avec Thomas. Bonsoir Thomas, comment vas-tu ?
Bonsoir Guillaume, bah écoute, comme je disais, bah on va reprendre un peu les habitudes de l'an dernier, ça va, mais ça pourrait aller mieux qu'une victoire. On va parler un peu de ce match, mais ça a été frustrant, on peut dire.
Ouais, ça a été un match très poussif à démarrer. Justement, je propose qu'on démarre tout de suite, hein, de manière pas poussive du tout, nous. Il y avait quand même une... Je vais pas dire une hype, parce que le mot est un peu fort, mais une envie, et on sentait qu'il y avait, avec l'arrivée de Baker Mayfield, quelque chose qui commençait à pointer le bout de son nez. Et il y avait des attentes. Voilà, c'est le mot, ça, des attentes autour de ce premier match. Et on l'a vu au coup d'envoi, hein, parce qu'il y avait vraiment une grosse ambiance dans le stade à l'annonce des équipes. Malheureusement, bah, le soufflet est assez vite retombé, parce qu'on va pouvoir passer assez rapidement sur les trois premiers cartons qui ont été très difficiles à regarder, hein, pour Carolina, il faut bien le reconnaître. Et on s'est retrouvé avec un score de seulement 20-7 pour Cleveland, j'ai envie de dire, à l'entame du dernier quart. À partir de là, on a commencé à voir des choses avec notamment Baker Mayfield qui a commencé à trouver la faille au sol, puis une passe longue distance vers Robbie Anderson pour faire un match serré dans les dernières minutes. Il a même réussi à récupérer la possession en toute fin de match pour permettre à Eddie Pinheiro de réussir un field goal qui a fait passer les Panthers devant 24-23 alors qu'il restait un tout petit peu plus d'une minute à jouer. Malheureusement, sur le drive suivant, les Browns ont réussi à convertir un field goal de 58 yards, hein, avec leur kicker rookie qui a scellé une défaite somme toute logique, hein, j'ai envie de dire, tu vas me donner ton avis sur l'ensemble de la rencontre, mais une défaite quand même amère sur un score final de 26-24. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça, toi ?
Bah, écoute, la défaite est amère. Voilà, les trois premiers quart-temps, on n'est pas vraiment dans le match, mais on a ce quatrième quart-temps, on a un réveil, on a une équipe qui commence un peu à retourner, un peu aller de l'avant, et franchement, c'était le quatrième quart-temps était beaucoup plus agréable à regarder. Bon, on se fait un peu crucifier à la fin par le kicker des Browns qui réussit un super field goal. Ouais, on aurait pu aller chercher la victoire, mais on l'aurait peut-être volé, je sais pas, avec en jouant trois cartons comme ça, mais non, il y avait beaucoup de choses à corriger sur ce match, et puis ça tournait pas beaucoup d'un côté comme de l'autre, de l'attaque ou de la défense de notre côté, quoi, au début.
Ouais, ben je te propose justement qu'on analyse un petit peu sur un peu avec la même recette qu'on avait l'an dernier. On va commencer à regarder un petit peu en attaque ce que ça a donné, puis on passera en défense et en équipe spéciale. Globalement en attaque, on va mettre un peu tout le monde dans le même panier. Ça a été quand même assez mauvais, hein, pour pas dire autre chose, pendant trois quarts temps. Du coup, les stats sont pas franchement... je ne sais pas si on peut dire qu'elles sont vraiment parlantes, parce que par exemple, Baker Mayfield termine avec 235 yards et 16 sur 27 à la passe. Mais c'est vrai que, voilà, faut voir que la plupart de ces yards ont été accumulés, en tout cas en grande partie, dans le dernier quart-temps. On peut noter quand même, moi c'est un truc qui m'a choqué, c'était quand même les 4 passes déviées et surtout les 4 snaps mal enclenché, mal contrôlé par Baker Mayfield avec Pat Elflein, et du coup ça aurait pu faire des ballons perdus. Au final, il a pu retomber dessus. Est-ce que toi, dans le lot, dans toute cette équipe offensive, est-ce qu'il y a quand même un joueur pour toi qui est sorti du lot? Je parlais de Baker Mayfield. Est-ce que le fait de retrouver CMC ça t'a marqué un petit peu plus, ou alors plutôt amorphe globalement cette équipe offensive des Panthers pour toi?
Bah, le truc, c'est qu'en fait, on l'a vu s'activer cette équipe offensive des Panthers que dans le dernier quart, parce que le premier quart, je crois qu'on est à 6 yards. Il me semble que la stat, c'était ça. C'est vraiment peu, et du coup, il n'y a que le dernier quart-temps où on a pu vraiment voir des choses. CMC, oui et non, parce que bah, en fait, on l'a vu que bah, par idem sur le dernier quart, il n'a pas été utilisé beaucoup plus avant. Enfin, il nous marque un touchdown un peu en mode bah, passe par-dessus tout le monde. Mais non, enfin voilà, je pense qu'il a été économisé sur ce match. Peut-être à la limite, peut-être sur Roby, je trouve qu'il nous marque un beau touchdown, mais sinon, non, il n'y a pas spécialement, je trouve, de joueurs en fait qui sortent énormément du lot sur ce match, étant donné qu'il n'y a eu qu'un seul quart quasiment qui a été joué en attaque.
Ouais, tu parlais de Roby, ça a peut-être lui été le meilleur receveur, le meilleur cible. Hein. Il finit à plus de 100 yards et 5 réceptions avec son touchdown en longue distance. Mais c'était, ouais, je te rejoins, c'était assez pauvre. Hein. Même sur la ligne offensive, on en attendait pas mal avec tous les renforts qui sont arrivés. Alors, il y a deux joueurs qu'on a un petit peu plus vus que les autres, malheureusement. Alors le premier, c'est le rookie Ikem Ekwonu. On s'attendait hein, pour son premier match à domicile face à Myles Garrett à ce que ce soit compliqué. Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça l'a été. Hein. Je crois qu'il concède 2 sacs et demi. Il a eu du mal.
Non, ouais, c'est ça, ça a été un peu particulier. Puis bon, après, c'est un peu un baptême du feu très très violent de tomber face à un Myles Garrett. Pour autant, il a quand même eu des bonnes phases de protection. Non, je vais vraiment voir attendre les prochains matchs pour en juger. Mais il y avait quand même, je trouve, il y avait quand même des bonnes petites bases pour Econo.
Ouais, parce qu'en plus c'était un petit peu attendu hein, qu'ils soient un petit peu plus en difficulté sur ce match-là. Un autre aussi qui a été en difficulté, et ça, c'est pour le coup, c'était aussi attendu et pas vraiment une surprise. Moi j'ai trouvé, en tout cas, c'est le centre Pat Elflein. Je parlais tout à l'heure des quatre mauvais échanges entre lui et Baker Mayfield. C'est pas la première fois, hein. Déjà l'an dernier, quand il était passé centre sur la fin de saison, il y avait 2-3 fois où, alors c'était Cam Newton de mémoire qui s'était retrouvé quarterback sur ces moments-là, mais c'est quand même pas l'assurance tout risque, Pat Elflein en centre, je sais pas ce que t'en penses, mais en tout cas
Clairement
moi ça
pas.
me rassure pas du tout, quoi.
Bah non, c'est pas rassurant. Et puis quand tout à l'heure tu parlais des quatre ballons presque fumblés de Baker Mayfield, on sait que la connexion entre le centre et le quarterback est super importante. Je pense que ouais, Mayfield avait beaucoup de pression sur ce match, mais que le Kyle Flynn n'est peut-être pas non plus toujours en dehors de ce problème, quoi.
Justement, tu parles de cette connexion et de ces habitudes entre le centre et le quarterback. Ça me fait rebondir sur quelque chose que disait Mathieu la semaine dernière dans notre précédente émission. Est-ce que tu penses, d'après toi, que le fait que les Panthers et Matt Rhule aient tardé à nommer Baker Mayfield comme quarterback titulaire, et du coup, bah, ça l'a privé de quelques reps avec sa ligne offensive et ses receveurs titulaires. Est-ce que tu penses que ça a pu jouer sur ce début de match compliqué ou alors, d'après toi, ça n'a pas vraiment influé au final?
Bah, j'ai envie de te dire oui et non, ça a peut-être eu un impact, mais j'imagine pas non plus que ça aurait été gigantesque. Je pense que c'était surtout un problème de pression. On sait que ce match contre Cleveland, il l'attendait avec beaucoup d'impatience. D'où un peu ce retard à l'allumage aussi pour lui, je pense.
Bon bah écoute, on va du coup espérer que ce dernier quart-temps qui globalement a été un petit peu positif quand même, hein, si on peut essayer de voir le verre un petit peu rempli sur cette rencontre. C'est vrai qu'il y a eu ce réveil en fin de match et le fait que même mené de quasiment 2 touchdowns, les Panthers ont réussi à reprendre le lead, ça montre quelque part une maigre consolation et une légère progression par rapport aux autres années. Ou que ce soit aussi bien avec Teddy Bridgewater qu'avec Sam Darnold. Je pense que des drives comme ça en fin de match pour passer devant, je crois pas qu'on en ait complété beaucoup. Là, il y a eu au moins ce drive qui les fait repasser devant. Est-ce que tu as été déçu qu'ils se contentent d'un field goal? Est-ce que tu as trouvé Je sais que c'est une remarque et quelque chose qu'on voit pas mal sur les réseaux, notamment aux États-Unis, que le play calling de Matt Rhule et de Ben McAdoo en red zone sur ce dernier drive a été un petit peu frileux, on va dire. Est-ce que tu es de cet avis ou alors pour toi tu trouves ça quand même somme toute logique et de faire confiance à la défense pour conserver ce score?
Non, pour moi, ouais, fallait faire confiance à la défense parce qu'en fait, au moment où où on veut taper le field goal, au moment où on tape le field goal, on est en 4e et 12. Ça passe pas, ben on est toujours derrière au score et puis bah c'est pareil, il reste 1 minute, 1 minute 14, 1 minute 15 à jouer. Faire un turnover avec ce temps-là, c'est juste impossible. Donc non, pour moi, en fait, fallait taper le field goal. Ça se joue à pas grand-chose dans le dernier drive, mais puis bon, voilà, en jouant que sur la fin, ça a été difficile, d'autant plus que le dernier drive offensif a quand même été assez rapide et assez bien mené, je trouve. Mais bon, voilà, c'est un peu amer, mais pour moi, c'était la bonne décision.
Ouais, je pensais surtout aux deux actions précédentes où il appelle deux courses, enfin c'est des RPO, mais deux courses de McCaffrey plein centre où il avance pas, plutôt que d'avoir tenté une passe vers la end zone qui aurait peut-être pu amener un touchdown. Alors tu me diras, ça aurait pu amener une turnover aussi. Mais non, pas trop de regrets pour toi. Enfin, cela dit, je te pose la question, mais je suis à peu près du même avis. C'est vrai que. Faut voir que c'était censé être que Jacoby Brissett en face. Il restait 1 minute, il n'y avait plus de temps mort. Normalement, la défense était censée pouvoir tenir. Et justement, cette défense, je te propose qu'on bascule sur elle, parce que bah, il y a quand même une tendance qui se dessine hein, depuis quelques années, notamment depuis l'arrivée de Matt Rhule. Où c'est la troisième fois depuis qu'il est là, donc en 34 matchs, que les Panthers concèdent plus de 200 yards au sol. On savait hein, que ce serait Jacoby Brissett quarterback, et que le succès offensif des Browns passerait très probablement par un gros match de Nick Chubb et Kareem Hunt. Bon, ben, à eux deux, ils font quasiment 190 yards. Hunt, il marque deux touchdowns. Je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve ça quand même assez inquiétant pour une équipe comme Carolina qui veut courir le plus possible au sol, et Matt Rhule avait parlé des 33 courses par match, bah de pas être capable comme ça de défendre justement contre cette course et de subir régulièrement face à des équipes avec des gros jeux au sol.
Ouais, non, c'est clairement frustrant, je trouve. C'est pas la première fois que ça nous arrive. Va falloir faire quelque chose parce que bon, bah là, en l'occurrence, bah ça leur a quand même permis de pas mal avancer et puis on s'est un peu fait marcher dessus encore une fois dans un secteur qu'on pourrait totalement maîtriser, quoi.
Bah, d'autant qu'il y a on en parlait avec Mathieu lors de la preview du roster, mais il y a quand même cette ligne défensive sur laquelle les Panthers ont investi massivement depuis quelques années, avec bah, notamment Brian Burns, Yetur Gross-Matos, Derrick Brown, pour ce qui est des rookies, enfin des joueurs qui ont été draftés. Et puis il y a eu les arrivées cette année de Ioannidis, notamment. Ça fait beaucoup d'investissements forts, j'ai envie de dire. Et au final, on termine cette rencontre avec un seul sac, qui en plus de surcroît est l'œuvre du linebacker Damian Wilson. Moi, j'ai senti la ligne offensive des Browns totalement prendre le dessus hein, face au pass rush des Panthers. Est-ce que tu as senti la même chose, toi, ou alors tu peux trouver des explications peut-être sur cette différence de jeu et de niveau entre les deux lignes?
Non, bah écoute, enfin moi, je veux dire, je suis plutôt dans la vie aussi que on s'est un peu fait manger, même sur défensivement parlant, sur le match, ça a été quand même relativement difficile. Alors, au début de match, on avait un petit manque de coordination, on a l'impression, au niveau de l'équipe. Non, ouais, voilà, c'est quand tu dis, ouais, notre seul sac, c'est Damien Wilson. On a Frankie Louvu qui me semble qui fait un petit stop sur Kareem Hunt, mais voilà. Non, je pense que la défense est partie moins fort que l'an dernier. Mais pour moi, ça va démarrer, quoi. On a quand même eu des bons ajouts sur cette défense. Il y a pas de raison, quoi, que ça démarre pas, quoi.
Non, pas encore, on va pas évidemment non plus complètement enterrer toute l'équipe après une seule semaine, on n'en est quand même pas rendu là. Mais c'est vrai que il y avait des secteurs et des positions fortes qu'on avait identifiées. La ligne défensive là, les defensive backs aussi, hein, notamment au niveau des cornerbacks avec trois joueurs, Horn, Jackson et Anderson, qui étaient censés être vraiment solides. Ils ont quand même été en grosse galère hier, hein, tous les trois, avec des grosses pénalités grossières. Hein, je pense notamment à cette passe interférence de CJ Anderson. Je suis même pas sûr qu'il soit revenu sur le terrain après. De mémoire, je l'ai pas revu.
J'ai pas souvenir.
Donc peut-être qu'il a payé le prix de ça derrière. Plusieurs pénalités sur Jesse Horn. Alors, on va dire qu'il est un petit peu rookie, hein, puisque sa saison dernière a été écourtée, donc peut-être qu'il y a ça aussi. Mais autant il y a ces deux pénalités en fin de match, la pénalité sur Brian Burns et la non-pénalité sur Brissett qui ont fait beaucoup parler, il y en a d'autres, à l'inverse, qui étaient quand même assez grossières. Et totalement justifié et qui ont coûté cher, certes, pas autant que les deux autres, mais c'est pareil, j'en reviens à ce que veut mettre en place Matt Rhule avec son « don't beat ourselves », son panneau DBO de l'an dernier. Je ne suis pas sûr que le message passe vraiment, je ne sais pas ton avis là-dessus.
Je suis plutôt d'accord là-dessus, c'est dommageable pour l'équipe, on va dire, pour l'instant, c'est un peu... On peut mieux faire à ce niveau-là, quoi. Très clairement, c'est stupide, quoi.
Et justement, ça va me faire transitionner tout doucement vers le coaching et les équipes spéciales. Est-ce que, alors, il est un petit peu tôt, hein, pour commencer à parler de faire changer de head coach, bien évidemment, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment une progression ou un apprentissage du côté de Matt Rhule. On a tendance à le voir faire, je trouve, les mêmes erreurs match après match, des problèmes de gestion de temps mort ou de stratégie des fois un peu bizarres. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est moi qui suis trop dur ou alors il y a effectivement quelque chose, tu vois la même chose?
Ben non, je vois la même chose parce que, ben en fait, on a l'impression qu'il n'y a pas eu d'apprentissage. En fait, on se fait avoir un peu au même piège. La gestion des temps morts est un peu hasardeuse par moment et en fait au final c'est sur des trucs comme ça qu'on peut potentiellement perdre le match, quoi, parce que si tu prends un timeout, si tu prends pas un timeout et que tu l'utilises sur le dernier drive quand le kicker des Browns veut kicker, t'as la possibilité de le stopper dans son truc et puis d'essayer de le déstabiliser, quoi. Mais là en l'occurrence on n'a pas le choix de subir.
Ouais, parce que c'est vrai qu'il restait un temps mort à la fin qu'il n'a pas utilisé. Alors, ça marche jamais, hein, mais bon, ça semble être le genre de chose qui est, voilà, au cas où tu essayes, de toute façon, ça ne coûte pas grand-chose. Mais bon, je ne sais pas. On va quand même essayer de finir avec deux choses un peu positives, si on peut dire. En tout cas, moi, j'en ai noté deux. C'est Eddie Pinheiro qui fait 4 sur 4 et sur les coups de pied. Alors certes, ce n'était pas des coups de pied longue distance, mais il a quand même réussi le field goal pour passer devant à la fin. Il n'a pas tremblé. Et puis Johnny Ecker, notre punter, qui a été plutôt solide sur ses dégagements, parce qu'en plus, il n'était pas toujours très très bien placé, hein. Souvent, il a punté depuis la moitié de terrain, bien enfoncé dans la moitié de terrain des Panthers, voire depuis la end zone. Pareil, je crois que tu avais bien aimé la signature de Johnny Ecker. Ça a conforté ton avis, même si bon, c'est vrai qu'il y a d'autres joueurs signés cet été qu'on aurait aimé voir briller aussi.
Ah bah carrément, parce que comme je disais l'an dernier, on se faisait pas mal avoir sur les punts, dans le genre où en fait on n'arrivait pas à dégager assez loin ou assez bien, et où on se prenait des points bêtement. Là, en l'occurrence, oui, au niveau du punt, pour l'instant, je suis très clairement, je suis beaucoup plus rassuré que la saison dernière.
Bon, on espère que ça continuera, même si on espère aussi le voir peut-être un petit peu
que
moins.
Y pas trop de
c'est ça, voilà. ce serait pas mal aussi. À moins que tu aies autre chose à rajouter, quelqu'un qu'on a oublié de mentionner, dont tu voulais parler, ou alors sinon, je te propose de le faire dans notre dernière section, hein, qui va être notre traditionnel top et flop de la rencontre. Est-ce que tu as réussi à trouver quelqu'un à mettre en top?
Ouais, alors en top, je me suis pas trop foulé. J'ai mis que en fait, ben, l'équipe a eu plus de gueule en fait au dernier quart-temps. Quand je dis plus de gueule, en fait, c'est la gueule qu'on attend de voir avec cette équipe, notamment d'un point de vue offensif. Ben, on a quand même eu des drives où ça a avancé, on a vu des choses, on a vu un Robbie Anderson qui attrape une super passe, on a un Ian Thomas qui nous fait une superbe réception aussi. Ben voilà, enfin, il y a quand même il y a des petits motifs qui nous montrent qu'on a des capacités, mais que faut encore s'adapter un peu et que ça peut encore s'améliorer, quoi.
D'accord. Et en termes de flop, est-ce que tu as réussi à trouver quelqu'un? Là, je pense que oui, mais du coup, qui as-tu trouvé?
Alors, on va dire que je me suis encore pas trop foulé, j'ai fait une globalité, pardon. Je suis parti sur le coaching offensif. Voilà, on en a parlé un peu pendant, on a parlé pas mal pendant le podcast. Ouais, il y a eu des. Les trois premiers quart-temps sont loupés. Offensivement, voilà, on se retrouve que dans le dernier. Il y a une sous-utilisation de CMC, bon, qui était peut-être pour le préserver, mais bon, on pouvait quand même l'utiliser peut-être un peu plus et un peu mieux, comme tu parlais notamment avec les deux courses sur le dernier drive. Mais voilà, c'est un peu mon flop sur le match.
D'accord. Bien, pour ma part, j'avoue que j'ai bien galéré à trouver un top, hein, je ne vais pas mentir. Du coup, j'ai un peu contourné l'obstacle, hein, j'ai fait un petit saut de côté. Et ce que moi j'ai bien aimé, en fait, c'est les peintures du terrain et des endzones qu'ils ont refaites avant la rencontre. Là, tout en blanc, je trouvais ça bien stylé. Alors, c'est vrai que, bon, voilà, si on en est rendu à parler des peintures du terrain dès la première semaine, c'est peut-être pas bon signe pour le reste de la saison. Mais en tout cas, voilà, je vais utiliser mon joker là-dessus. Mais c'est vrai que je trouvais ça assez joli, la façon dont ils ont refait les end zones avec le logo tout en blanc au milieu du terrain. Je trouvais ça sympa. Dommage que ce qu'on a vu sur la pelouse après était un peu moins sympa, mais en tout cas, ça c'était plutôt bien. Au niveau des flops, là, c'était un peu l'inverse. Il y avait un petit peu le choix de l'embarras, comme on dit. J'ai choisi les defensive backs, hein, dont je parlais tout à l'heure, avec ces trois joueurs qui étaient censés être vraiment clés et puis qui ont eu des bons passages, mais qui sur l'ensemble ont été quand même, je trouve moi personnellement, m'ont un petit peu déçu. Donc voilà, je vais partir avec ce top et ce flop pour cette première semaine. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette rencontre, hein. Il y avait peut-être un peu moins à dire que sur d'autres. Le prochain rendez-vous pour les Panthers, c'est dimanche prochain à 19h chez les Giants. Des Giants qui ont battu les Titans dans le Tennessee, avec notamment un gros match de Saquon Barkley, hein, le running back qui termine la rencontre avec 160 yards au sol. Je ne sais pas toi, mais moi, ça ne me rassure pas des masses quand
Bah
je
ouais,
vois.
comme on en parlait, ouais.
C'est pas super rassurant, hein. On espère qu'il va y avoir une remise en question et surtout qu'on va trouver des réponses, parce que c'est vrai que si on se dirige vers le même profil de match, ça peut être un peu compliqué. Je ne sais pas ce qu'il en est au niveau du pass rush, parce que je sais que le rookie Kayvon Thibodeau était blessé en fin de mois d'août. Je ne sais pas s'il sera revenu ou pas pour dimanche prochain. Ce sera une des choses à
Ce sera
suivre.
surveillé.
Est-ce que toi, tu as quelque chose que tu attends sur ce match? Un joueur des Panthers, par exemple, que tu aimerais qu'il se réveille plus que les autres? Tous les joueurs des Panthers, peut-être. Qu'est-ce que tu attends de cette rencontre?
Bah écoute, moi, enfin, j'ai toujours mon envie de voir un Baker Mayfield très très bon. Donc on va espérer que cette fois-ci le démarrage sera beaucoup plus rapide, ben, dès le premier quart-temps, espérons, ou au moins pas dans les derniers. Mais ouais, non, non, j'attends beaucoup de Baker Mayfield sur le prochain match.
D'accord, très bien. On va espérer effectivement que les Panthers montrent un autre visage. On vous tiendra au courant bien évidemment dans la semaine avec les différentes infos concernant les Panthers. Et puis, bah, du coup, on va surveiller cette situation autour du pass rusher des Giants. Thomas, merci d'avoir enregistré cette émission avec moi.
Bah écoute, merci à toi.
Merci à vous de nous avoir suivis et on vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode. Ciao!
Ciao!